Bonjour, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 16 juin 2014, avec, eh bien, pour le moment, Jean-Pierre dans les studios. Et j'espère que mon ami Michel viendra me rejoindre rapidement pour aborder toute l'actualité qui est particulièrement chargée aujourd'hui, aussi bien dans sa partie internationale que nationale. Bon, on va peut-être commencer par l'international, bien que national a une extrême importance avec la multitude de mouvements sociaux qui sont toujours dans une phase d'amplification puisque le pouvoir est sourd et autiste et ne veut rien entendre face aux revendications de multitude de catégories salariales. En international, beaucoup de choses. On va peut-être évoquer pour commencer ce qui se passe en Palestine avec cette histoire de trois stoppeurs jeunes qui, sur le bord de la route israélien, donc installés dans une colonie, qui est l'idée aussi d'aller s'installer dans des colonies quand on n'est pas dans son pays, se sont fait capturer par des militants, sans doute du Hamas, c'est du moins ce que pense Netanyahou. Et ben, trois jours après, on les a toujours pas retrouvés. Les Israéliens mettent des gros moyens en hommes, des milliers d'hommes à la recherche, et puis organisent une riposte militaire avec une répression. Par exemple, en deux jours, 150 suspects ont été arrêtés. Et dans les affrontements échauffourés, il y a eu la mort d'un jeune de 19 ans. Et dans les 150 suspects, entre guillemets, hein, évidemment, arrêtés, on a trouvé moyen de s'en prendre au président du Parlement palestinien, un élu donc du Hamas. C'est dire que on ne respecte rien. Du coup, il y a eu un contact Abbas-Netanyahou qui n'a pas donné grand-chose. On signale quand même, parce qu'il y a longtemps que ces deux personnages ne s'étaient plus parlé. Alors, c'est une crise qui, bien sûr, pour Israël, prétend affaiblir le Hamas en Cisjordanie. On sait que Israël, après avoir tout fait pour séparer le Hamas du Fatah, maintenant s'indigne qu'ils font un gouvernement ensemble et ils recherchent à nouveau à les séparer. Que dire d'autre là-dessus? L'attentat a été revendiqué par E2IL, on appellera comme ça la nouvelle mouvance sunnite radicale qui est en train, on va le voir sitôt après, d'opérer en Irak. Mais cette revendication n'est pas forcément sérieuse. Voilà pour la situation en Palestine. Alors, pas loin de là, donc en Irak, il y a une intervention un peu compliquée, enfin vue par les Occidentaux, elle n'est peut-être pas ressentie comme par les Irakiens. En tous les cas, c'est le bilan de la diplomatie et de l'intervention américaine depuis 2003, donc au bout de 10 ans, ce pays qui, après l'intervention américaine, devait retrouver un fonctionnement démocratique exemplaire à l'occidental, disons, eh ben ça s'est pas du tout passé comme ça. On a mis un premier ministre qui représentait la communauté chiite et qui n'a pas partagé le pouvoir du tout, on va dire, avec une grande partie de la population qui est sunnite. Et on en arrive à un affrontement qui se préparait tout doucement avec l'État islamique en Irak, l'armée islamique en Irak du dos levant. Ce qui est curieux vu d'ici, c'est que ces combattants très déterminés représentent quelque 5000 personnes. En face d'eux, il y a 250 000 militaires irakiens, essentiellement chiites. Et pourtant, cette armée irakienne a l'air défaite. Plusieurs villes ont été prises, Mossoul en particulier. Bon, depuis, il y a eu une réaction, elles auraient été reprises, mais on nous parle aujourd'hui de massacres de soldats arrêtés par les troupes d'intervention irakienne et de soldats chiites, donc il y en aurait eu 10 et 100. Tout ça, paraît-il, est visible sur Internet. C'est une technique donc pour terroriser la population que de montrer ces massacres. Alors, de son côté, l'armée irakienne annonce 270 terroristes abattus. En tous les cas, on va vers une modification majeure de la géopolitique régionale. Sans pouvoir dire à l'heure qu'il est ce qu'il en sera, il y a une revendication de ce qu'on appelle le retour du califat du début du XXe siècle, c'est-à-dire avant que les Européens redécoupent les frontières, une autorité musulmane qui régirait tous ces pays et qui redessinerait la géopolitique du coin avec l'Irak, aussi du côté du sud, bien sûr, hein, et puis avec l'Iran. Alors, dans ce contexte, les Kurdes tirent leur épingle du jeu et avaient déjà une province autonome dont ils se sont mis en place, dont ils s'installent pour défendre les frontières. On a l'impression qu'ils cherchent à organiser leur autonomie, voire leur indépendance, à partir de là, déjà à partir de l'Irak. Et puis les chiites, quant à eux, s'appuyant aussi sur la Syrie, veulent essayer de conserver le territoire. Alors il y a une curieuse alliance autour du schisme entre l'Irak et l'Iran, et on va voir qu'elle a des incidences jusque côté américain, puisque les Américains se demandent que faire. Rien. Envoyer des drones, envoyer des hommes, ils ont dit non. Mais par contre, la situation le préoccupe, et ce soir, on en est à ce que il y a un rapprochement entre les Américains et l'Iran. Alors c'est quand même assez curieux parce que l'Iran, aujourd'hui, la conférence de Vienne, 5+1 sauf, reprise des négociations autour du nucléaire iranien, négociations qui doivent durer jusqu'au 20 juillet et qui pourraient durer 6 mois de plus, avec à la clé des accords, soit de nouvelles sanctions, puisque le régime iranien veut garder les milliers, des dizaines de milliers de centrifugeuses. Les Américains ne veulent pas en entendre parler, ils veulent continuer de construire leur centrale de Darak, les Américains non. Néanmoins, il semble qu'on pourrait faire une pause sur tous ces désaccords soutenir ou faire quelque chose avec l'Iran contre cette poussée sunnite en Irak. Vous voyez que la géopolitique a des secrets et des ressorts bien, bien curieux. C'est d'autant plus étonnant que tout ça. Alors, bien sûr, aux États-Unis, ça engendre des réactions chez les républicains qui trouvent scandaleux ce pseudo-rapprochement. Mais la politique, c'est aussi du réalisme. Et puis, en Irak, il faut dire que si cette incursion de l'armée islamique paraît un peu scandaleuse, en Irak, elle ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a toute une partie de la population qui déclarait souffrir énormément de l'armée de Maliki et qui voit comme une libération et une amélioration de leur sort le recul de cette armée et de son pouvoir. Bien sûr, tout ça n'est pas du point de vue des Occidentaux. Mais alors, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, mais que faire, quoi ? Et à part des grandes déclarations, il n'a pas de moyen d'intervenir. Toujours est-il à l'heure qu'il est que donc cette petite armée de 5000 hommes s'avance vers Bagdad avec l'idée de prendre Bagdad Cela sera-t-il possible? Il y a une réaction, il y a des protestations, il y a des appels au soutien populaire d'Al-Maliki. Bref, on est en plein dans la période où cette guerre civile est en train de se dérouler. Elle est à moitié civile, elle est à moitié militaire, mais elle a quand même des relents de guerre civile, ce qui déstabilise beaucoup la région, avec bien sûr la Syrie voisine, qui continue d'ailleurs ses répressions, puisqu'il y a eu aujourd'hui, je crois, encore une trentaine de morts par des bombardements organisés par le régime. Voilà, d'un gros sujet donc qui méritait d'être traité, bien sûr. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut évoquer l'Ukraine aussi, qui a connu cette fin de semaine dernière une attaque par un missile par les séparatistes russes contre un avion de transport de troupes, 49 morts. Alors on peut vraiment se demander, Poutine disant qu'il y est pour rien, que c'est pas lui qui fournit les armes, on a quand même du mal à imaginer des séparatistes russes avec leurs petites mains ou avec leurs grosses mains fabriquer en 3 semaines des missiles solaires qui demandent une certaine technologie. Mais bon, ils ont encore des victoires parce que ce soir encore ils ont pris un bâtiment. Pendant ce temps-là, Porochenko et Poutine discutent et ça se passe pour le moment pas bien, bien qu'ils aient tellement d'intérêts communs qu'on a du mal à douter qu'à terme un accord ne soit pas trouvé. Officiellement, la situation est la suivante, 3,8 milliards de dettes si l'Ukraine ne paye pas de gaz, Poutine ferme le robinet. Et il ne rouvre que si on paye d'avance et à voir. Comme Porochenko, qui est quand même un paratchik du système et qui a des intérêts dans l'industrie et dans le fait que l'industrie fonctionne, que Poutine a besoin de vendre son gaz aussi, il devrait finir par trouver un accord. Pour le moment, on fait planer le doute aux Européens, aux Occidentaux, de leur approvisionnement pour cet hiver. Il y a une grosse dette et on n'est pas d'accord sur le prix, c'est-à-dire que Porochenko propose 326 $ le mètre cube et Poutine, lui, en veut 385 $. Grosse différence quand même. Voilà, autre sujet qu'on peut aborder, retourner un petit peu vers l'Asie, là, avec l'Asie du Sud-Est, avec les Pakistans, ou un assaut contre des talibans au nord-ouest du pays. Un assaut, c'est une opération de nettoyage, disent les dirigeants pakistanais, d'une région qui s'appelle le Waziristan du Nord. 30 000 hommes sont engagés dans l'affaire et le pouvoir prétend en 15 jours venir à bout de cette région autonome talibane avec des bombardements, avec une incursion de militaires. Il y aurait déjà une centaine de morts. Voilà, on peut peut-être évoquer encore d'autres sujets ou bien faire une pause musicale. Oui, on va peut-être la faire, la pause musicale, puisque avec une vague image de commémoration, le 14 juin, c'était il y a 2 jours, donc 94, ça fait donc 20 ans, disparaissait Mouloudji. Mouloudji, je vous propose de l'entendre dans une chanson qui a fait quand même sa réputation, même si la version dans laquelle il l'interprète n'est pas la première version, qu'à l'époque, il faut dire qu'en 54, au moment de la guerre d'Indochine, personne n'a osé l'utiliser. Donc lui, c'est la version 2, la version 1 étant restée longtemps inédite, la version 2 qu'il a interprétée. Bon, celle qui finit, vos gendarmes pourront tirer, alors que la version 1, c'est vos gendarmes peuvent venir, en gros, et je sais tirer.
Qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on en me grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des mères, j'ai vu mourir des pères et pleurer des enfants. Les gens ont tant souffert et d'autres se gambergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai par les chemins, je vagabonderai sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde. Et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, vous êtes tous des frères pauvres de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Mouloudji interprétait Boris Vian. Mouloudji, un petit hommage à l'occasion des commémorations des 20 ans de sa mort, le 14 juin 1994. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info du lundi. Donc je vais continuer cette partie internationale avec l'annonce d'un certain nombre de news relativement courtes, mais qui permettent de balayer un petit peu toute l'actualité. Avec les élections en Colombie, où Santos a été réélu à 51%, Riquerac, on a cru un moment que son challenger, Usagún, passerait. Et finalement, non. Santos a été réélu autour de son engagement à sortir des conflits avec les FARC, de poursuivre les négociations et d'arriver à terme. Cette position ne défendait pas son challenger. Finalement, la population, même si tout le monde n'est pas concerné par les FARC, a suivi cette position. Des élections, on n'a pas les résultats, puis on les aura pas avant le mois de juillet en Afghanistan. Abdullah, deux candidats du Serail, hein, Karzai ne pouvant pas se représenter, mais on peut penser qu'il va continuer à pseudo-gouverner en manœuvrant par derrière, puisque c'est deux hommes de son, deux ministres qui sont là candidats. A fait 45% au premier tour, Ashraf Ghani a fait 30%, il semble qu'avec les alliances qu'on connaît des différents groupes, c'est quand même Abdullah qui devrait finalement l'emporter, mais tout ça c'est pour des résultats qui tomberont au mois de juillet, donc on a le temps de voir venir. Si on va du côté du Rwanda et de la RDC, de nouveau, ça s'était calmé depuis un moment, mais des incidents à la frontière dans le Kivu avec des accusations d'incursion et des renforts militaires envoyés des deux côtés, ce qui ne laisse rien présager de bon quant à un retour rapide à une situation sereine et à la paix. Voilà, qu'est-ce qui... Ben, au Kenya aussi, situation avec les Chababs somaliens qui organisent des attentats. Il y aurait eu 34 morts dans une ville touristique ces derniers jours. On dira aussi quelques mots de Gbagbo. Gbagbo qui va être jugé par le CPI donc en Europe, jugé pour les 3000 morts qui, en moins de 5 mois après les dernières élections, ont entouré les événements et pour lesquels il est tenu largement responsable. Au Soudan du Sud, famine et maladie sont à l'ordre du jour, malaria, choléra, et en plus la guerre, puisque des cessez-le-feu avec le Nord dans ce jeune État donc, ont été prononcés en janvier, en mai, ils n'ont jamais été respectés, et ce 11 juin, on vient de signer un troisième accord dont il y a peu lieu de penser qu'il soit plus efficient que les précédents. Ce qui est grave, effectivement, c'est que les conditions pour les populations, indépendamment des militaires, sont très mauvaises et que les gens souffrent. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben que la Ligue arabe se réunit mercredi et jeudi à Djebab, en Arabie Saoudite. Donc une Ligue arabe qui va se réunir sans la Syrie, suspendue depuis 3 ans, mais qui aura un ordre du jour particulièrement chargé et concernant tous ces événements qui se déroulent dans les pays du Moyen-Orient. Rubrique Europe, pas grand-chose, puisque c'est toute l'internationale qui tenait le haut du pavé aujourd'hui. On dira quand même que les Espagnols annoncent avoir démantelé un réseau de recrutement terroriste vers l'Irak et la Syrie, organisé par un ancien de Guantanamo. Alors, information, intox, difficile de savoir. Et le Portugal, plus intéressant économiquement, vient de refuser la dernière tranche de l'aide internationale qui lui était octroyée à hauteur de 2,6 milliards. C'est pas qu'ils en ont pas besoin, mais c'est que avec toutes les réticences et les manifestations qu'il y a eu de la population, cette aide était assortie d'un certain nombre de contraintes supplémentaires en direction des travailleurs et des salariés. Et le Portugal estime qu'il est arrivé à un stade où il valait mieux ne pas s'engager dans cette voie-là et refuser donc l'aide. Voilà, je réclame ma rubrique internationale et je vous propose une pause musicale. On va la faire, c'est des vieux souvenirs mais qui sont très actuels, on va la faire avec Dominique Lange sur fond de mouvements sociaux qui se déroulent actuellement en France, grève illimitée.
Les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée. Les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début, on marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. En plein mois de mai, la révolution. Entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel odéon, partout l'amitié. La Sorbonne libre, ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. 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 Ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Ça en enthousiasmera certains, ça rappellera de bons souvenirs à d'autres, ça en énervera d'autres encore, et puis ça en stimulera aussi peut-être quelques autres. Grève illimitée, c'est un réenregistrement en 2008 d'une chanson qui avait été créée en plein 1968. Alors, en est-on là ? Ben, on ne sait jamais, hein, les mouvements sociaux commencent, on ne sait jamais comment ils continuent. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas sur le reflux. On va essayer de balayer un petit peu tous ces mouvements sociaux, certains avec détails, d'autres moins. Ben, cet après-midi, par exemple, il y avait à Lyon un comité d'accueil, une manif qui a regroupé quelques 2000 personnes, donc, pour Rebsamen, qui venait converser gentiment avec le MEDEF sur les bienfaits que le Parti Socialiste octroie à ce MEDEF avec les pactes de je sais pas trop quoi. Bref, le collectif unitaire 69 appelait à manifester à la préfecture, donc il y a eu manif. Alors la grève, ben la SNCF, situation compliquée, puisque certains, le gouvernement avait cru que c'était réglé, puisque la CFDT avait signé, et que tout allait bien aller, et que demain est présenté au Parlement le projet de loi. Et puis la CGT, à un moment, a pensé que ça, les amendements proposés pourraient suffire. Et finalement, non, il s'est radicalisé parce que les salariés se sont radicalisés contre ce projet de démantèlement du service public. Alors, le Sudrail est en première ligne aussi dans cette grève qui en est maintenant à son 6e jour et qu'en sera demain à son 7e parce qu'elle a été revotée. Alors, on nous a gonflé tout le week-end avec la radicalisation autour de ces pauvres petits lycéens qui n'allaient pas pouvoir aller bachoter ce matin. Finalement, hein, ils étaient 300 000 à passer l'épreuve de philo. Je crois qu'il y a quelque chose comme 11 ou 1200 retards. Alors, c'était peut-être pas la peine d'en faire des mouettes là-dessus. Alors, pourquoi les agents de la SNCF sont en grève ? Ben, ils sont en grève, on va dire, c'est pas la première fois. Au fur et à mesure de tout ce qu'on leur fait subir comme modification de conditions de travail, de statut, ils ont manifesté, ils ont fait connaître leur position, et depuis 18 mois, le gouvernement ne tient aucun compte de toutes les demandes. Il semble que là, on est arrivé au moment où ça sature et où il y en a marre. Donc, les gens veulent que ce projet soit retiré, ce projet de loi, et rediscuté avant d'être présenté au Parlement. Et pour le moment, Hollande, autiste, est sourd, donc ne veut rien entendre et va demain proposer le projet de loi. Alors, la grève va donc déjà continuer jusqu'à demain. Que va-t-il se passer après ? Je ne sais pas. Et il faut dire qu'il y a autour de ce projet beaucoup de choses. Il y a en 97, je crois, ou 13, on a voulu séparer les activités d'infrastructure des activités de matériel Rouen. C'était une aberration, tout le monde en était conscient à la SNCF et aussi ailleurs d'ailleurs, mais ça arrangeait le capitalisme libéral de l'époque, et on l'a fait. Et on l'a fait, et on est arrivé donc avec des tas de problèmes. On en a vu quelques-uns se traduire par des catastrophes d'accidentelles, quoi, avec un manque de rigueur, avec des moyens qui sont pas adaptés entre justement le matériel et les gens. Et puis là, on veut regrouper en une seule société les deux branches qu'on avait séparées. On se demande bien pourquoi. Une seule société qui aura un statut un peu semi-public. On se demande bien d'ailleurs comment ils vont faire, puisqu'en 2018, la concurrence sur les voies pour le matériel roulant va pouvoir intervenir. C'est une directive européenne. Donc alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir de nouveau séparer le rail des voitures. C'est assez bizarre, quoi. Mais derrière tout ça aussi, il y a une attaque contre le statut du personnel, une remise en cause des acquis sociaux, et c'est surtout, je pense, là-dessus que se battent les cheminots, qui voient bien que, par exemple, tous les nouveaux embauchés n'auront pas le statut qu'ils ont eu. Bref, c'est le capitalisme libéral qui, avec son rouleau compresseur, s'en prend à la SNCF comme elle s'en est pris à des tas d'autres domaines où ça a été plus facile pour lui. Il faut dire que la SNCF, c'est 150 000 agents. Alors, d'une manière un peu marrante, RESF, c'est 1600 agents, quoi. C'est vraiment très peu. Ça leur fait beaucoup de kilomètres de voies à contrôler. Et quand on dit de voies, ça veut dire les rails, les aiguillages, l'état des soudures. Enfin, c'est un boulot énorme, quoi. Ils n'ont pas les moyens de leur mission, et c'est aussi la contre qu'ils protestent, quoi. Alors, on voit des gens comme Manuel Valls qui monte sur leur grand chevaux et qui nous annonce la mort de la gauche. Alors, nous, on se dit que si la gauche de droite pouvait mourir, ben, c'est pas très grave. Et vive la gauche de gauche, on attend que son heure arrive. Autre front social important, énorme, c'est les intermittents. La mobilisation s'amplifie. Elle a commencé en douceur et on voit que tous les sites qui étaient jusque-là épargnés par les grèves entrent dans la grève, ce qui veut dire dans les jours qui viennent, il va y avoir de plus en plus de choses d'annulées. À Lyon, par exemple, ce soir, la petite Vanessa va pouvoir rejoindre son copain Joël Taxi, qui lui aussi est en grève, puisque elle ne chantera pas aux Nuits de Fourvière, donc les Nuits de Fourvière épargnées. L'ENSAT vient de voter la grève. Là, c'est Jean-Pierre Vincent qui en fait les frais avec la première de son spectacle qui n'aura pas lieu. Alors, il faut dire que là aussi, on assiste à quelque chose de curieux socialement, hein. La mobilisation s'amplifie. Le MEDEF, en accord avec le PS et en accord avec des syndicats comme la CFDT, restreignent les droits des intermittents. Que le MEDEF le veuille et essaie de le faire, c'est une chose. Que le PS embraye et que certains syndicats signent des deux mains, ça c'est beaucoup plus anormal. Et c'est presque une trahison de leur vocation de défendre les intérêts de leur syndicat. Alors en face, bien sûr, il y a des syndicats plus radicaux comme la CGT et puis d'autres aussi, et puis même des individuels qui voient très bien ce qui va advenir de leur situation dans cette évolution. Donc on va, puisque le gouvernement s'obstine et déclare vouloir signer vouloir mettre en place les accords signés le 22 mars, le gouvernement déclare donc il ne veut pas revenir là-dessus et qu'il va le faire. Encore une trahison du Parti Socialiste qui, quand il était dans l'opposition, n'hésitait pas à soutenir les intermittents et qui maintenant s'en prend à eux. Il y a eu une réunion avec Philippe Etty qui n'a pris aucun engagement, on comprend pourquoi, elle est téléguidée pour justement ne pas prendre d'engagement. Et elle s'est donc fortement tenue au calme. Et du coup, ben, les intermittents sont repartis très en colère et investissent tous les lieux où il y a des festivals. Ça doit leur coûter aussi, c'est pas une grève gratuite pour eux, parce que autant de situations de grève, autant d'heures en moins qu'ils ont fait, et quel que soit le système dans lequel ils vont tomber, ce sera des pertes de revenus conséquentes. Voilà, c'est curieux de voir. Alors, on va continuer de lister un petit peu. La semaine dernière, donc, c'était les taxis et les VLC avec là aussi un statut à protéger pour les taxis, un métier curieux, un statut qui aurait peut-être dû évoluer depuis longtemps, puisque ces gens-là doivent payer des 100 ou 200 000 euros pour pouvoir conduire un taxi en ville. C'est bien bizarre. Et après, donc, sont tenus à des réglementations et en phase 2, une pratique, on va dire, sauvage de voitures particulières, de loueurs avec chauffeurs, qui, sans avoir rien à payer, sans patente, s'installent et viennent concurrencer directement les taxis. On comprend qu'il y ait deux poids, deux mesures et qu'il y ait une revendication de ce côté-là de la part des gens qui travaillaient dans le taxi. Autre petite grève dont on parle moins, mais c'est les facteurs du Paris 15e qui entament leur troisième semaine de grève, protestation contre les conditions de travail qu'on leur fait. Vous dire si ça va loin, il y a même les surveillants de prison qui jeudi dernier étaient en grève sur leurs conditions de travail et qui ont entraîné pour la moitié des prisons françaises un blocage. Il y a aussi les chercheurs qui sont en lutte de leur côté. Donc tout ça fait qu'on voit vraiment qu'il y a une grosse agitation sociale. Tout cela à 3 semaines de l'ouverture de la conférence sociale du gouvernement. On a du mal à croire que ça va pouvoir se dérouler dans des conditions de grand calme, quoi. Et pour montrer combien Hollande se désintéresse de tous ces mouvements, eh ben aujourd'hui, par exemple, il ne s'occupait que d'Alstom. Et la vente d'Alstom d'un côté et de celle d'Airbus avec Safran de l'autre. Bref, des sujets sérieux pour lui, les autres ne l'étant pas. Toujours est-il que la contestation s'érige là où on ne l'attendait pas. Autour de, certains diront de corporatisme, en tous les cas de droits acquis dans des situations de travail données et qui sont à défendre puisque le grand capital libéral n'a de cesse que de s'en prendre à tous les droits des travailleurs s'ils pouvaient, un jour ils vont finir par prôner le rétablissement de l'esclavage. D'ailleurs c'est déjà fait, on voit les salaires dans certains pays, on peut dire que c'est déjà fait. Ils en rêvent d'y arriver en France, si des gens s'élèvent contre ça et protestent, on va pas s'en indigner quand même. Hein. C'est bien la moindre des choses que les gens défendent leur statut. Et même l'UMP Châtel, vous me direz c'est facile pour lui de surfer là-dessus, demande le retrait de la réforme concernant les intermittents. C'est assez cocasse comme démarche. Allez, je vous propose une autre pause musicale, puisque de toute évidence, je serai tout seul pour animer ce journal et que ça donne soif. Et on va la faire encore avec Dominique Grange, une chanson qui avait fait scandale au point qu'elle avait été largement censurée, celle-là. Aujourd'hui, ça passe mieux, mais qui sait, les nouveaux partisans.
Écoutez les nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Fayon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez les nos voix, elles annoncent la guerre.
sommes les nouveaux partisans.
Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes. Les camps du peuple et notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides, où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles, où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs, immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Et vous les gardes chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas. Maintenant ça marche plus, il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance, vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe.
Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Dominique Grange, auteur, compositeur, interprète des Nouveaux Partisans, autre chanson post-68arde. Qui revient à la mode. Alors, quelques autres informations nationales, on va dire, avec la loi famille, mais qui doit être en train d'être discutée. Alors, elle a déjà, le 22 mai, failli être votée, mais comme l'UMP avait fait obstruction avec 600 amendements, ça n'a pas pu se faire, mais là, il restait 300 amendements examinés en 7 heures aujourd'hui. Ça paraît bien impossible. On se demande un peu par moment si, en fait, ça n'arrange pas Hollande, et s'il ne laisse pas tomber cette loi. C'est pas pour lui une bonne occasion de laisser tomber cette loi famille qui lui pose quelques problèmes qu'il n'avait pas pressenti. Il pensait que tout le monde allait trouver ça, que c'était une grande avancée. Et puis, bah, toujours tous les excités de la manif pour tous qui montent au créneau sur le moindre truc. Les dispositions qui sont prévues là engendrent pas mal de contestations. Quoi. Une autre loi qui est en train de passer comme ça un peu à la trappe, c'est la loi du flot, ce qu'ils appellent la loi Allure, qui a été votée, mais qui attend ses décrets d'application, et comme on les publie pas, on peut penser que là aussi, il y a une grosse opposition à droite, du côté des investisseurs immobiliers, des propriétaires qui n'en ont jamais assez, qui en ont plein les poches, puisque l'État leur paye, hein, la loi du flot. L'État vous paye la moitié d'un logement quand vous êtes Rupin, sous forme de réduction d'impôts, et que vous achetez un logement pour le louer, bien sûr. Il paraît qu'il faut des logements à louer, alors on fait des efforts considérables, tu parles. On donne le pognon aux riches au lieu de verser les mêmes sommes à des gens qui pourraient compléter avec leurs deniers pour s'acheter des apparts. Maintenant, c'est bien plus rigolo et bien plus intéressant de le filer à ceux qui sont déjà pleins aux os, quoi. La loi Allure, c'était pas tout à fait ça, c'était des aménagements qui visaient à limiter les montants des loyers, les augmentations, des choses comme ça. Alors tous les proprios et les associations sont montés au créneau en disant que les investisseurs allaient tous partir en Angleterre ou au Luxembourg, je suppose, puisque vraiment on leur rendait la vie impossible et sans possibilité de gagner quelque chose. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement la droitisation du PS domine dans cette affaire-là aussi, eh ben on va voir les décrets d'application attendre leur publication et qu'il va rien se passer du tout et que ça va continuer comme avant à l'avantage des plus riches. On a eu le bilan du chômage au premier trimestre. Dans le secteur marchand, 22 000 emplois de moins, ça fait 44 000 sur un an, et surtout donc de l'intérim qui est concerné par ça. Voilà, on dira un mot de politique. Quel avenir pour la gauche? Alors la gauche essaie, la vraie gauche, de se restructurer un peu pour faire un front anti-austérité avec même les socialistes affligés, là, la quarantaine de zoos qui ont le cul entre deux chaises, les Verts, Europe Écologie, la gauche alternative, le Front de Gauche. Comment donc créer une force politique qui pourrait espérer inverser le rapport des résultats qu'on a obtenus aux européennes avec cette montée affolante et aberrante du Front National, quoi. Un mot d'encore une décision à la con prise par M. Hollande, à savoir la nomination, fallait remplacer M. Baudis, il est mort, hein, comme défenseur des droits, quoi. Alors, qui en a été cherché? Jacques Toubon, je vous le donne en mille. Ça dit peut-être pas grand-chose à tous nos auditeurs, Jacques Toubon, mais il fut ministre de Chirac. Il s'est illustré dans un tas de trucs pas clairs et tout à fait désagréables. Il était ministre de la Culture sous Chirac. Après, il a été garde des Sceaux de 95 à 97, quoi. C'est lui, par exemple, qui a laissé un souvenir amusé quand il a été envoyé, quand il a envoyé un hélicoptère chercher en Himalaya un juge pour qu'il rentre Fissa de vacances afin d'éviter que Xavier Tiberi soit poursuivi. Vous voyez, presque 20 ans après, on lui court toujours après à Xavier. Ça a été efficace, quoi. Mais il en a fait d'autres, tout bon. Il en a fait d'autres parce qu'il s'est toujours montré extrêmement réactionnaire en matière de morale. Par exemple, opposé à la dépénalisation de l'homosexualité, un vote ambigu sur l'abolition de la peine de mort. En tant que ministre de la Justice, il a fait amnistier les commandos anti-IVG qui sévissaient. Il a aussi déclaré que le harcèlement sexuel doit rester en dehors du champ pénal et que, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Alors, placé à la tête de la Cité de l'immigration par Sarkozy, là, il a carrément adressé ses félicitations au Congolais Sassou Nguesso quand il a été réélu. Il n'y avait pas de quoi. Et puis Adopi aussi, il fait preuve d'un esprit rétrograde. Bref, quelle idée d'aller chercher ce type-là alors qu'il y en a tant d'autres, on se demande bien. On a aussi des nouvelles ces derniers jours de la fortune de Le Pen qui, en un mandat de député européen, s'est enrichie de 1,1 million d'euros. Alors je ne vous donnerai pas le détail décrit par lui, parce que c'est assez fantaisiste. Mais si vous voulez vraiment le savoir, et ben c'est dans l'UMA du vendredi, samedi, dimanche. Il y a un article un petit peu détaillé sur cette fortune soudaine survenue à ce certain Jean-Marie, privé de blog, et qui du coup veut mettre la fessée à Marine. Bonne Maison et Leonetti, donc un truc qui a beaucoup occupé les médias ces derniers jours. Un médecin qui reconnaît finalement avoir pris quelques libertés avec les règles de la loi Leonetti. Ça sent un petit peu le règlement de compte à l'hôpital, mais enfin de ce procès qui semble assez serein, il devrait sortir quand même quelque chose d'à peu près décent. Puis on dira quelques mots de Ludy, une fois n'est pas coutume. Borloo remit de sa pneumonie, de sa septicémie, reprend du poil de la bête et cherche à neutraliser les jeunes loups qui voulaient lui piquer sa place, Lagarde, Hervé Morin, Jean-Christophe Fromentin, en déclarant lui aussi, peut-être pas sous la même forme que Sarkozy, qui voit pas bien l'utilité de primaire pour le parti. Il n'a pas parlé de Ducon et de Durien, lui, mais on n'en est pas loin. Et donc il pense pouvoir reprendre sa place à la tête de l'UDI avec le destin national dont il rêve depuis toujours. Voilà, quelques infos culturelles. Oh, elles seront brèves, il n'y a pas grand-chose déjà, parce que les intermittents font ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas grand-chose. Donc les nuits de fou rire ce soir sont annulées, mais je peux vous donner quelques annonces sur des expos. Voilà, ça c'est loin. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a au cœur, au cœur de tes oreilles, c'est à la ferme du Vinatier jusqu'au 18 juin, des scènes de rencontre. Plusieurs manifestations que vous pouvez retrouver dans le programme. Le 18 juin, oui, spectacle jeune public. Enfin bon, on ne peut pas tout lire. L'association Geneviève Dumont, c'est à Paul-Lyonnais, une belle balade Paul-Lyonnais, même si vous n'allez pas qu'à l'association, vous pourrez profiter des paysages. Une exposition du 7 juin au 6 juillet, Fabrice Lallier, Impression. Puis à la Fondation Bulucan, depuis le 13 juin jusqu'au 19 juillet, Marion Fayol, auteure, illustratrice, donc présente ses dessins, ses peintures, enfin ses... ces scénographies, pas mal de choses intéressantes. Artiste, encore un effort, ça c'est au Centre d'art plastique de Saint-Fond, le Cap, jusqu'au 12 juillet, une exposition, donc une traversée de l'artothèque de Saint-Fond qui vous présente ses productions meilleures, enfin meilleures ou pas meilleures, mais enfin des choses qui sont dans les cartons. Du 5 au 13 juillet, il y a un stage de théâtre animé par la Compagnie de l'Iris sous la direction de Philippe Clément. Si vous êtes avez envie de faire un stage théâtre à ce moment-là, c'est possible, donc à Lyon. Puis pour l'année prochaine, il y a aussi tout un cycle d'activités pédagogiques au théâtre à l'Iris. Il faut consulter leur site, bien sûr, soit pour les enfants ou pour les adultes. Et cette exposition sonore, en partenariat avec le CMTRA jusqu'au 26 juillet 2014, l'entrée est libre, c'est aux archives municipales de Lyon. Place du Pont Production, des chansons du Maghreb à Lyon, c'est une collecte culturelle très intéressante de tout ce qui a pu se créer à Lyon au fil des 50 dernières années en matière de musique autour de la place du Pont. Il s'agissait souvent de cassettes à moitié artisanales, et là un travail d'archivage a été fait, de collecte, et présenté au public. Voilà, ben écoutez, ce Canu Info va se terminer. Je vous invite à bien rester à l'écoute. Nous allons poursuivre avec une émission en direct autour de Elsa Triolet, la quatrième de notre série. Et qu'est-ce que je vais vous passer pour terminer? Peut-être. Eh bien, pourquoi pas encore une chanson de Dominique Grange, celle-là peut-être plus récente. Droit d'asile, c'est pas mal, droit d'asile.
De Rome ou bien de Milan, dans notre beau pays de France, après les
des années de plomb. Ils portaient des noms d'ailleurs, Paolo, Roberta, Oreste, un pénitent voyageur, Enrico ou Cesare.
Donne-moi le droit d'agir.
Je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir.
J'ai déjà jeté l'encre. Je ne veux plus bourlinguer. Sans boulot, sans domicile, sans repère et sans copain, les débuts furent difficiles dans les années 80. Mais un jour, le président leur offrit sa protection, et pendant plus de 20 ans, rien n'altéra cette illusion.
Donne-moi le droit d'agir.
Je voudrais accoster.
Donne-moi le droit d'agir.
Il y a quelqu'un qui m'attend là-bas sur la jetée. Peu à peu, ils ont forgé, avec des femmes, avec des hommes, des amours, des amitiés, dont ils ne furent pas économes. Et les petits qu'ils ont faits ne peuvent s'endormir le soir sans recevoir leurs baisers. Ils ont bien trop peur dans le noir.
Donne-moi le droit d'agir.
Prends la mer, j'irai droit aux galères. Un beau jour, le président s'en est allé sans crier gare, et bientôt son remplaçant a trahi ses engagements. Paolo, persécuté par l'Europe judiciaire, fut conduit à la fin.